Très honoré d'être avec vous ce matin, très heureux. Nous sommes revenus du Labrador où nous avons travaillé avec une organisation qui s'appelle le Comité central Mennonite, qui est affilié avec les églises Mennonites. Et donc, on a œuvré surtout auprès des Autochtones, des Inuits et aussi des Indiens montagnais qu'on appelle les Inus aussi au Québec et au Labrador. Et donc, on est revenu depuis octobre et je ne sais pas si c'est le mode nomadique des Inuits et des Inus qui nous a suivis, mais nous sommes pour l'instant un peu nomades encore dans notre ministère. Mais ce qui nous donne l'occasion, le privilège aussi de visiter de belles communautés. Donc, on est allé à Shawinigan, à l'église baptiste là-bas il n'y a pas longtemps. On est allé à Saint-Jean-d'Iberville, on va à Sorel la semaine prochaine. Et tout cela aussi, en partie... Évidemment, grâce à Normand et Annick, qu'on a rencontrés il y a quelques mois, qui nous ont accueillis d'une façon très chaleureuse. Et c'est vraiment un privilège d'être accueillis comme ça, même si on n'est pas souvent présent, parce que justement, comme je vous dis, on est un peu encore nomades. Mais le groupe biblique aussi à Boucherville, les Amel, qui nous ont accueillis dans leur maison. Donc on apprécie évidemment tout cela. Et c'est beau de voir une communauté qui grandit, une communauté qui est une communauté de l'espoir, qui ouvre ses portes aux plus démunis, qui ouvre ses portes aux plus blessés de la vie, et qui apporte dans cette communauté de Longueuil, et d'ailleurs aussi sur la rive sud, une fenêtre d'espoir dont la communauté élargie a grandement besoin. Une société qui est en déprime, une société qui se cherche, une société qui a oublié que... ces premiers arrivants au Québec venaient au nom du Christ et qui a besoin de retrouver ce message de l'Évangile. Eh bien, ce matin... Oui, oh, vous avez...
Tout le monde veut t'entendre à l'arrière.
C'est ça, comme disait un ami prédicateur, il faut s'attacher au Québec. Laisser faire ça parce que je risque de faire des dégâts.
OK. On a trouvé un homme avec des petites oreilles.
Bon. Au moins, j'ai découvert aujourd'hui des petites oreilles.
Et là, voilà.
Ben, merci beaucoup.
Un instant, je vais juste placer ça en arrière de vous.
Et... ça va?
Et là, voilà. Merci.
Ben, merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup. Ça va être un peu plus facile pour avoir un peu plus de mobilité, même si je ne veux pas quand même faire tout l'estrade ce matin. Deux sages, deux rabbins juifs discutaient. Et vous savez que les rabbins juifs discutent beaucoup. C'est partie de leur culture aussi de dialoguer. Même leur enseignement, c'est un enseignement qui est interactif et qui discute. Et ces deux sages juifs discutaient des modèles que le judaïsme avait apportés dans l'Ancien Testament. Ce que Hébreu, dans les livres d'Hébreu, ce que Hébreu 11, Hébreu 12 va nous apporter, vous savez, c'est héros de la foi. Depuis Abraham, et puis on en cite plusieurs, même si la liste n'est pas complète. Et ces deux sages essayaient de comprendre leur propre vision d'eux-mêmes. Et l'un des deux dit à son collègue, il dit, au fond, nous par rapport à ces gens, ces hommes et ces femmes de la foi de l'Ancien Testament, enfin, pour eux, c'est qu'il n'y a que l'Ancien Testament, évidemment, nous sommes un peu comme des nains. Moi, je me sens un peu comme un nain. Je ne me sens pas à la hauteur de ces modèles qui nous sont donnés dans la Bible, dans les Écritures, dans la loi. Et dit, je les vois un peu, ces gens-là, ces hommes et ces femmes, comme des géants. Et il dit à son collègue, un géant, ça voit plus loin qu'un nain. Oui, tu as bien raison. Il dit un nain, ça voit normalement moins loin qu'un géant. Et l'autre dit, ben oui, tu as raison. Et l'autre lui répond, oui, mais imagine que le nain monte sur les épaules du géant. Ah! Alors, qui verra le plus loin? Eh bien, c'est un peu dans cet esprit-là que j'aimerais vous partager quelques pensées aujourd'hui de personnages qui ont vécu dans l'Ancien Testament, personnages qui ont vécu il y a à peu près 2500 ans, dans une autre culture que la nôtre, dans une autre langue que la nôtre, avec d'autres façons de vivre que les nôtres, et pourtant des gens qui nous ressemblent, des gens qui peuvent nous apporter du réconfort, de l'espoir. Nous ne sommes pas, les chrétiens évangéliques, souvent portés à lire l'Ancien Testament. J'ai remarqué ça dans notre pratique pastorale, que souvent les gens hésitaient à explorer certains livres de l'Ancien Testament, parce que justement c'est des personnages d'une autre langue, d'une autre culture, d'un autre temps, avec des mœurs un peu bizarres. Même certains vont jusqu'au point de dire que on dirait que ce n'est pas le même Dieu. Hein, c'est un autre Dieu, et puis on ne se reconnaît pas là-dedans, on ne comprend pas tellement. Et à part les psaumes qui nous rejoignent à cause des prières, évidemment, ces chants qui sont mis pour nous dans les psaumes où on se retrouve, mais les histoires, etc., les guerres, et puis c'est un petit peu rébarbatif parfois. Eh bien, j'ai toujours développé ce goût d'aller lire les histoires de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les histoires. Et à travers les années, j'ai eu le plaisir de découvrir, à travers la narration de ces histoires des hommes et des femmes de l'Ancien Testament, des perles, des trésors que j'aimerais simplement partager avec vous, peut-être pour vous encourager, si c'est nécessaire, si ce n'est déjà fait, d'ouvrir l'Ancien Testament et de relire ces histoires avec des yeux nouveaux, et de dire il y a des choses, des perles, des trésors pour nous dans ces livres, et nous pouvons actualiser ces histoires pour nous dans la Nouvelle Alliance. Nous nous sentons peut-être nous-mêmes comme des nains. Moi, si je pense à l'apôtre Paul, je me sens comme un petit nain. Si je pense à Abraham, à Moïse, à Ruth, à Esther, à Marie, je me sens comme un petit nain. Et ça peut être écrasant et décourageant. En disant, bien, ça c'était bon pour ce temps-là. Et quand on lit les récits de la Bible, on se dit, oh, c'était Paul, évidemment, ça c'était Paul. C'était Élie. Et pourtant, on nous dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Mais quand même, on a tendance à être écrasé par ces modèles, en disant, bah oui, mais moi, je suis quelqu'un qui vit en 2008, dans un contexte différent, puis franchement, je n'ai pas cette connaissance, je n'ai pas cette foi, je me sens écrasé, je me sens comme un petit nain, je ne vois pas très loin dans ma vie. Et vous avez peut-être raison, j'ai peut-être raison de penser que je suis un nain, mais imaginez-vous que si nous montons sur les épaules de ces géants, que nous verrons plus loin qu'eux. C'est même extraordinaire de penser ça. Extraordinaire. David, probablement Moïse, avait une vision de Dieu, mais il en savait moins que nous, dans un sens. Parce que Jésus s'est révélé, Dieu s'est révélé en Christ, et nous avons l'occasion, en montant sur l'épaule de ces géants, de voir plus loin, d'avoir une vision de la vie, une vision de la société qui est plus éclairée qu'eux. C'est par pure grâce que Dieu nous fait ça. C'est pas parce qu'on est meilleur, loin de là. Et donc, le livre des Hébreux, au chapitre 12, nous dit: nous donc, qui sommes entourés de cette foule de témoins, il dit, marchons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors nous voilà donc en bonne compagnie, et nous pouvons marcher à côté de ces géants, nous pouvons simplement monter sur leurs épaules, et puis les regards sur Jésus, nous marchons avec eux dans la bonne direction. Voilà la bonne nouvelle, la nouvelle d'espoir pour nous aussi. J'aimerais ce matin que vous puissiez ouvrir un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le livre d'Esther. Si vous cherchez, c'est Esdras, Néhémie et Esther. C'est une histoire absolument fascinante, passionnante. Si vous prenez le temps de lire ce livre, il y a 10 chapitres, Ça vous prend à peu près une heure ou moins. Ça, c'est plus long de regarder un film. Et je vous assure, c'est comme un film. C'est un vrai film, c'est incroyable. C'est captivant, c'est bien écrit. Je dirais que si c'était un film, ce serait une super production en cinémascope avec, je ne sais pas, des effets spéciaux, mais en tout cas des décors incroyables, des costumes incroyables et des rebondissements aussi exceptionnels. On dirait aujourd'hui en anglais un thriller. Vous savez, on pense que c'est fini, puis c'est pas fini, puis ça recommence. On pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, puis on pense que c'est une mauvaise nouvelle, puis c'est une bonne nouvelle. Ça n'arrête pas d'avoir des rebondissements jusqu'à la fin. Heureusement, ça se termine bien, mais je ne veux pas tout vous dire parce que sinon, ce n'est pas la peine d'en parler, il n'y a plus de suspense. C'est donc un extraordinaire thriller, ce livre d'Esther, qui se passe dans un décor somptueux. Certains critiques bibliques, il y a toujours des gens comme ça, ont dit que c'était de la pure fiction. Parce qu'on pense qu'il a été écrit dans la période intertestamentaire, vous savez, où il y a un manque d'identité chez les Juifs, où ils cherchaient, ils n'étaient pas en Israël, et puis il ne semblait pas y avoir vraiment de révélation, de prophète. Et il y avait un sentiment nationaliste très fort. Les Romains sont arrivés après, et puis ils ont occupé le territoire. Donc il y avait ce besoin pour les Juifs d'avoir ce sentiment d'identité. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, d'identité culturelle, d'identité religieuse, de savoir qui ils étaient. Alors, ils avaient besoin de se raccrocher à des histoires, évidemment, qui leur rappelaient que quelqu'un de puissant veillait sur eux. Alors, certains ont dit, c'est de la pure fiction, c'est quelqu'un qui a inventé l'histoire pour simplement donner aux Juifs un petit peu d'espoir, en disant, vous êtes quelqu'un, c'est un peuple, Dieu est avec vous, Dieu vous protège, vous avez une identité forte. D'autres ont dit, c'est un espèce de roman, mais sur fond historique. Vous savez, on peut faire ça parfois. Des romans, c'est un peu plus mêlant parce qu'on se dit, c'est pas une histoire vraie, mais il y a un fond historique. La vérité, ce n'est pas celle-là. La vérité, c'est que nous avons ici un livre qui est écrit, on ne sait pas qui, peut-être Mardochée, mais pour peut-être quelqu'un d'autre, aussi un juif qui avait à cœur de rappeler cette histoire pour donner du courage aux juifs. Mais nous croyons, nous, que la Bible est inspirée de Dieu et que ce récit d'Esther, comme le récit de Jonas aussi, qui est plus difficile à avaler, comme on dirait. C'est un récit vrai. C'est un récit vrai. Ce n'est pas une espèce de conte des mille et une nuits, comme les Arabes savent bien les faire. Ce n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie. C'est important de croire ça, parce que sinon, on pourrait dire, il était une fois, vous savez, il était une fois. C'est un beau conte. Et puis, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Donc, ce sont des belles histoires, mais au fond, qu'on peut tirer des leçons. Mais ça n'a rien à voir avec notre réalité. Alors, ça meuble un peu notre imagination. Non, c'est une histoire vraie. Et c'est important pour nous de constater que les Écritures nous racontent l'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu comme nous, de l'espoir, de la joie, de l'amour, des peines, des souffrances, des délivrances. C'est très important, car si nous commençons à couper des pages de la Bible, à la fin, qu'est-ce qui va nous rester ? C'est donc cette histoire vraie, située dans le temps, située dans l'espace, et nous sommes appelés, nous aussi, comme chrétiens, non pas à être désincarnés, vous savez, mais à être vraiment incarnés dans notre société, à vivre dans un temps, dans un espace précis, et à occuper l'espace qui nous est donné par Dieu, et à influencer notre société d'une façon très concrète. C'est ça que nous avons à vivre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour plus tard quand on va mourir, c'est pour maintenant. Et maintenant, Dieu nous appelle à jouer un rôle, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre famille, dans notre voisinage, dans la communauté élargie, dans notre milieu de travail. Dans ce film d'Esther, vous pouvez le regarder. Moi, je l'ai lu hier encore, puis je pouvais visualiser les choses. Alors, c'était extraordinaire. Il y a, évidemment, comme dans tout bon thriller, il y a un méchant, vraiment méchant. Il y a un bon, intègre, qui mange de la misère. Il y a un leader qui semble meilleur dans sa stratégie avec les femmes qu'avec les affaires militaires. Et un roi qui aime aussi arroser copieusement ses repas. Et un roi qui, en même temps, est très influençable, qui se laisse un peu diriger par ses émotions, ses sentiments, un roi qui pique des bonnes colères et qui le regrette après. Enfin, un leader de notre temps. Hein? Il aurait fait Paris Match. C'est pour vous dire que ces récits-là, bien qu'ils soient lointains, sont tout à fait d'actualité. Même si les décors changent, le cœur des hommes et des femmes est strictement le même. Il y a des acteurs principaux, évidemment, il y a une reine, il y a une histoire d'amour là-dedans. Ce roi, nous le verrons un petit peu plus tard, qui a besoin de trouver une nouvelle reine, et il y a une histoire d'amour qui se développe, il y a la reine Esther. Et puis, il y a des rôles secondaires, des rôles de soutien. J'aime bien les rôles de soutien. Souvent, on a tendance à voir les vedettes, ceux qui ont la première place. Mais vous savez que les rôles de soutien, c'est très important. Il y a même des Oscars qui sont donnés pour ceux qui ont des rôles de soutien. Et on va voir dans ce récit qu'un homme comme Mardochée, par exemple, va jouer un rôle de soutien. Et moi, je lui donnerai un Oscar parce qu'écoutez, c'est extraordinaire cette fois-là. Alors, j'aime bien les rôles de soutien et j'aimerais vous en parler un peu plus ce matin, évidemment. Puis, il y a un acteur aussi dans ce livre, un acteur qui est le metteur en scène en même temps. Vous savez que dans le monde du cinéma, souvent, pour des raisons fiscales, je crois, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais beaucoup de metteurs en scène choisissent d'avoir une courte apparition dans leur film. On appelle ça des caméos. Alors vous voyez Orson Welles qui passe comme ça là, dans le décor, une seconde, mais c'est suffisant pour peut-être avoir, je sais pas, des avantages fiscaux, je sais pas, mais en tout cas on appelle ça des caméos. Et vous avez ici un metteur en scène, le metteur en scène de ce film, de cet épisode historique, et on ne le voit pas, il n'y a pas de caméo. On ne le nomme même pas, il n'est même pas au générique. D'habitude, on met le metteur en scène en gros. Hein. Il n'est même pas au générique. Et c'est ce livre de la Bible, Esther, qui est un peu étrange, où l'on ne prononce jamais le nom de Dieu. C'est un peu curieux, parce que nous, chrétiens évangéliques, nous aimons prononcer le nom de Dieu, nous aimons prononcer le nom de Jésus. Parfois, il nous arrive de le prononcer à tel point que les gens regardent aussi nos actions et on aurait tendance à dire, bien, commençons à vivre et à agir comme des chrétiens et ensuite on parlera aussi de notre foi et on parlera de notre espérance et on parlera de Dieu. Parfois on s'avance un peu trop vite et on parle de Dieu, on le nomme, on a toutes les sauces et il faut aussi que la vie vienne avec ça, évidemment. Ici, on ne parle jamais du nom de Dieu, et pourtant, Dieu est présent partout. Dieu est présent. Et il est l'acteur principal, il est le metteur en scène, parce qu'il est lui qui contrôle, qui dirige tous ces acteurs, qui les motive, qui les influence. Mais c'est lui qui agit. Il est dans la situation. Parfois, nous avons l'impression que Dieu est silencieux, est absent. Ça vous est arrivé probablement à vous, ça m'est arrivé aussi à moi, de ne pas sentir cette présence de Dieu. Dans une situation difficile, d'avoir l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Et pourtant, Dieu est là, présent, agissant dans nos vies, contrôlant l'histoire, bienveillant envers nous, et nous mettant dans les situations à la bonne place en son temps. Nous vivons dans une société qui est un peu la société de l'époque d'Esther. On va simplement situer le contexte historique. Nous avons ici un récit qui se passe en 483 avant Jésus-Christ. Quand on commence à Jésus-Christ, on va vers le sens contraire, c'est-à-dire on commence avec zéro, puis on va vers les 400, 500, et on s'éloigne. Donc c'est un récit qui s'est passé il y a 2500 ans exactement. Les royaumes se suivent, se succèdent et se ressemblent. Les empires tombent, d'autres naissent et ils tombent encore. C'est l'histoire de l'humanité. Donc nous ne nous décourageons pas parfois de voir des empires monter et contrôler le monde. Ils passeront comme les autres. Nous avons ici une situation qui se passe en Orient. C'est le roi Xerxès qui règne sur un immense territoire, le monde connu à ce moment-là, depuis les Indes jusqu'à peu près au nord du Soudan aujourd'hui. C'est un immense territoire. Ce roi s'appelle Xerxès Ier. Il est le petit-fils de Cyrus. Cyrus était un roi des Perses aussi, qui a édité, vous savez, qui a promulgué cet édit en 538 pour dire « Les Juifs peuvent retourner à Jérusalem dans leur pays. » Il leur a donné l'autorisation de reconstruire le temple. C'est le petit-fils de ce roi Cyrus. Donc, ces Perses et ces Mèdes, dont vous avez entendu parler, parce qu'on dit la loi des Mèdes et des Perses, quand on veut dire qu'une loi ne peut pas être changée, là, c'est écrit comme ça. Cet empire des Mèdes et des Perses avait succédé lui-même à l'empire des Babyloniens, qui eux-mêmes avaient suivi l'empire des Assyriens. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les empires changent et se forment, disparaissent. Les puissances coule comme l'eau, qu'il soit bienveillante ou non. Et ce roi Xerxès était très fier donc de sa réussite. C'était la troisième année de son règne, en 483. Et il s'est dit, vous savez, quand on a réussi, quand on a une bonne situation, puis qu'on regarde ses affaires, qu'on dit, ça va bien. On va faire ce qu'on appelle, on achète une nouvelle maison, imaginez-vous, on fait ce qu'on appelle d'habitude pour inaugurer une maison ouverte. On appelle ça en anglais « open house ». On va inviter nos amis, notre famille, puis on va fêter ça, notre nouvelle situation. Alors le roi Xerxès s'est dit « on va faire le gros party, on va fêter ça dans tout l'Empire ». Il y avait 127 provinces imaginées dans l'Empire, ça fait du monde, ça, de toutes les langues qui soient. Et on va fêter ça, on va sortir le champagne, le bon vin, et pendant 6 mois... Donc, si vous ouvrez votre Bible, au chapitre 1er, on trouve ça. Pendant 6 mois, on fait un gros party. On fait un banquet qui dure 6 mois pour inviter les hauts dignitaires, les ministres, la crème de la société. On commence par là. Puis au bout de 6 mois, le roi dit, bon, maintenant, là, son cœur est un petit peu attendri par la bonne bouffe et le bon vin. Dis-là, on va ouvrir ça à la classe populaire de la société, à tous les pauvres, à tout le monde. Il dit, pendant une semaine, ça va être la fête partout, et tous les pauvres, hommes, femmes, enfants, vont être invités au palais. On va servir du vin, des repas, et pendant ces 8 jours-là, on va fêter avec tout le peuple. Le 7e jour de cette semaine, vous imaginez que ça fêtait. Le roi était un peu joyeux. Et il était avec ses ministres, ses hauts dignitaires et tout le monde. Il s'est dit, « Oh, j'ai une femme qui est vraiment belle. » Et pour lui, probablement, sa femme, c'était sa propriété. Il s'est dit, « J'ai envie que tout le monde voit que ce n'est pas seulement mes richesses, mon armée, l'architecture de mon palais, mais que je veux montrer que j'ai une belle femme. Je veux être dans Paris Match. » Alors, il invite donc sa femme qui avait dans ses appartements, qui faisait un banquet pour les femmes, la reine Vashti, qui était sa femme, faisait un grand banquet avec les autres femmes. Et alors le roi, lui, il dit, bien, qu'on la fasse venir, vous imaginez un petit peu l'état où il était, là. Et donc il donne l'ordre d'aller la chercher, et quand Vashti reçoit cette convocation d'aller vers le roi, et devant tous ses notables, qui étaient en état d'ébriété, avancés probablement, qu'est-ce qu'elle se dit? Il n'y en est pas question. Je ne veux pas être un objet et me faire ridiculiser ou me montrer à tout le monde. Je ne suis pas un objet. Mais écoutez, ce n'est pas une femme croyante nécessairement, mais elle nous montre quelque chose d'important. Dans notre société, c'est que déjà à cette époque, il y avait des femmes fortes, il y avait des femmes qui avaient une dignité, il y avait des femmes qui refusaient de se faire traiter comme des objets de convoitise. Mais ça, nous prenons ça et nous disons, mais c'est un modèle, déjà, de dignité. Et vous savez bien que notre société, même aujourd'hui, est une société qui reste très machiste, même si nous avons fait peut-être quelques progrès. Et nous constatons que même dans nos communautés chrétiennes, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Quand est-ce que nous allons voir des hommes et des femmes côte à côte dans la dignité? Il a fallu des décennies, des siècles, pour que les femmes aient le droit de vote au Québec. Il a fallu des siècles pour que la condition de la femme soit reconnue et qu'il y ait des corrections qui soient appliquées. Bien, rendons hommage à ces femmes, Vashti ou Esther, qu'on verra plus tard, se tient debout, même va aller au-delà de ses craintes pour se tenir debout et dire que la situation est injuste et non, ça ne marche pas. Il faut que ça cesse. Il y a une grande leçon là et je crois comme chrétiens, nous aussi, nous pouvons nous tenir debout et dire, ce n'est pas parce que la société va dans ce sens-là que nous devons aller dans ce sens-là non plus. Ne soyons pas à la remorque des progrès de la société. Soyons-en les initiateurs. Donc cette reine Vashti va refuser de venir et elle va payer très cher le prix, car le roi va demander conseil à ses ministres. Et ses ministres vont lui dire, bah, tu sais, si tu fais rien, tous les hommes du royaume vont être ridiculisés, puis on va avoir l'impression qu'ils sont des chiffres molles. Alors, t'es mieux de faire quelque chose. La pression. Hein? Alors, le roi fait un décret, et puis la reine Vashti est simplement destituée de ses fonctions. Elle doit être exilée quelque part, et elle perd son titre de reine. Quand le roi va se réveiller un peu de son coma, il va s'apercevoir qu'il a fait une bêtise. Mais c'est trop tard, parce que vous savez que la loi des Mèdes et des Perses, une fois qu'ils avaient fait un édit, c'était fini, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc il se retrouve mal pris. Mais très vite, il sera occupé quand même avec des guerres avec les Grecs, et il va avoir assez de misère avec les Grecs que ça va y prendre quelques années quand même. Et à un moment donné, il se dit, bon, il faut qu'à nouveau il y ait une reine. Donc il va chercher une nouvelle reine. Et alors on va chercher dans tout le royaume des jeunes filles, parmi tous les peuples, on va les amener évidemment de force, au palais, ils vont avoir des appartements, on va les préparer pendant une année. Et parmi ces jeunes filles, le texte nous dit qu'il y a une femme qui s'appelle Esther. Elle s'appelle Asada, ou Adassa, excusez-moi, Adassa, Esther. Parce qu'on donnait toujours un nom, vous savez, quand les peuples étaient emmenés en exil, quand ils vivaient dans un pays étranger, ils étaient emmenés en esclavage, on leur donnait toujours un nom du pays. Pour quelle raison? Pour les assimiler, hein? Pour qu'un jour, ils ne savent plus qui ils sont. Pour un jour, ils soient vraiment modelés à la culture environnante. Et puis qu'on puisse vraiment dire, ils nous appartiennent. Parce que Gilles Vigneault l'a bien dit, ce qu'on peut nommer, ça nous appartient un petit peu. Alors, évidemment, quand on peut nommer une personne nous-mêmes, elle nous appartient. Alors, Esther s'appelait Adassa. Et puis, il y avait aussi son cousin, un homme qui s'appelait Mardoché. Ces deux noms, probablement, venaient de Ishtar. Esther aussi va s'appeler Esther, ça vient d'Ishtar, un dieu babylonien, puis Mardoché vient probablement de Mordoc, un dieu babylonien. Certains ont dit que ça voulait dire c'est petit homme. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, ces noms, comme le nom de Daniel et le nom des autres, avaient été changés pour assimiler ces gens-là. Bien, ce que je veux dire, c'est que peu importe notre nom officiel, notre identité profonde ne dépend pas du nom que l'on porte, ni de l'étiquette que l'on nous met, quelle qu'elle soit. Parfois, les étiquettes qu'on nous met sont péjoratives, les noms qu'on nous donne sont humiliants, on veut aussi nous assimiler, on veut qu'on soit comme tout le monde. Bien, notre identité profonde ne dépend pas de notre nom, même si c'est un nom étranger. Notre identité dépend de ce qui est à l'intérieur de nous. Ce Mardoché, donc, avait élevé Esther, sa cousine, qui était orpheline, et il n'y est pour rien de sa venue à la cour, mais il constate que cette jeune fille est à la cour et lui dit « Ne dis pas que tu es juive ». C'est intéressant parce que notre mentalité à nous, il faudrait dire « Dis que tu es chrétien, tu sais, où tu travailles, dis que tu es chrétien ». Non, non, c'est pas obligé de le dire. Vis comme quelqu'un de chrétien et si tu as l'occasion, bien dis-le. Mais pour l'instant, vis. Si on ne le voit pas par ta vie, ça ne sert pas grand-chose de le dire au fond. Cette jeune fille très jolie, intelligente, va au palais et le roi la convoque, il passe une nuit avec. Et la Bible nous dit que ce n'était pas seulement sexuel, mais qu'il la trouve belle, mais qu'il la trouve intelligente, qu'il est charmé par elle et qu'il a de la tendresse envers elle. C'est intéressant, hein ? Il manifeste de la tendresse, du respect. Et donc Mardoché est dans l'ombre, il est un personnage de soutien, il suit ce que fait Esther, elle devient reine et il prend des nouvelles. De loin. Lui, il est fonctionnaire au palais. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais il ne devait pas avoir... Ce n'était pas un haut fonctionnaire, ce n'était pas un ministre. Il n'avait pas accès au roi, en tout cas, comme Esther. Et donc, il parlait à travers elle parfois, il prenait de ses nouvelles. Sa condition était modeste. C'était celle aussi d'un homme exilé dans un pays étranger. Comme parfois nous avons l'impression d'être étrangers dans notre propre culture, un peu exilés. Mais n'ayons pas la nostalgie simplement du ciel en disant vivement que le Seigneur vienne nous chercher, nous délivrer de cette société infecte. Mais Mardoché fait son travail, il est productif, il est fidèle, il est constructif, il se contente d'être là comme un croyant. Dans ce travail qui n'était peut-être pas nécessairement exaltant. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un travail qui n'est pas nécessairement exaltant? D'avoir un patron qui n'est pas toujours agréable? D'avoir des collègues qui, vous allez voir, vous tirent dans le dos? Eh bien, Mardoché est un beau modèle d'une personne qui est incarnée dans une société qui pourtant ne lui convient pas nécessairement. Ce Mardoché va plus que de faire son travail. Un jour, il entend parler que deux proches du roi complotent pour l'assassiner, ce qui arrivait assez couramment à cette époque. Et alors, il le dit à Esther, qui Esther informe le roi. Le roi fait une enquête, commission d'enquête. Ça ne dure pas des mois. On découvre la vérité. Finalement, on fait ce qu'il faut pour régler le problème. Le roi est sauvé et on prend soin de le noter dans les livres du roi. Mais évidemment, le roi, lui, une histoire pousse une autre, il ne s'en souvient plus après ça, hein, c'est fini. Et Mardoché retourne à son travail. C'est frustrant, ça. Vous imaginez que vous faites un bon coup, vous faites gagner de l'argent à votre patron, vous avez une bonne idée... Puis finalement, on vous pique votre idée, ou bien on l'oublie complètement, puis merci beaucoup, puis la personne s'approprie cette idée. Vous imaginez des situations d'injustice comme ça, où vous faites quelque chose de bien, vous sauvez une situation, puis finalement, vous devez retourner à votre travail, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation de salaire, rien du tout. C'est frustrant. Mardoché ne semble pas réagir à ça, il retourne à son travail, continue de faire ce qu'il faisait. Quel beau modèle d'humilité, de simplicité. Pire, Mardoché aurait pu dire ben, « je vais être promu, haut fonctionnaire, avoir une place, une ouverture, il y a un poste, je vais appliquer, puis je vais avoir un petit peu de crédibilité, puisque le roi, je viens de lui sauver une situation ». Non, pire que ça, parce que quelques temps après cet événement où Mardoché a sauvé la vie au roi, il nous a dit qu'il y a un méchant, un arriviste, un opportuniste, en connaissez-vous des opportunistes, des gens qui sont arrivistes, qui vont jouer des coudes, comme on dit, qui vont écraser tout le monde. Il y a un nommé Amant, je ne sais pas ce qu'il a fait au roi, il a dû le flatter dans le sens du poil, vous savez comment on dit. Puis à force de compliments, et puis je t'en mets, il obtient une promotion, il devient finalement le grand vizir. Avez-vous lu les bandes dessinées, le grand vizir is no good? Hein? Il devient le grand vizir, is no good. Méchant, mais méchant à l'os. Mais devant le roi, évidemment, beau sourire, il fait tout ce qu'il faut pour lui plaire. Mais il y a quelque chose qui le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange parce que il y a ce Mardoché qui est un petit fonctionnaire, et puis Haman, quand il passe dans les couloirs du palais, les gens, d'habitude, les hauts fonctionnaires, les ministres, tout le monde s'agenouille devant lui, comme si c'était un roi lui-même. Et lui se prend pas pour quelqu'un, il se prend pour vraiment un roi. Et peut-être qu'il a l'ambition de le devenir, d'ailleurs. Hein? Ça aurait été un bon candidat pour assassiner le roi. Haman, évidemment, il regarde même pas cet employé. Il le regarde pas. Il sait même pas que le Mardoché refuse de s'agenouiller devant lui quand il passe. Il regarde plus haut que ça, vous savez. Il y a des gens dans votre entourage qui regardent plus haut, là, qui ne vous voient même pas. Ça, c'est pire encore d'être détesté que qu'on ne nous voit même pas, d'être ignoré. Ça, c'est frustrant d'être ignoré. Alors, Haman ne voit pas, mais vous savez, il y a toujours des gentils collègues. Des gentils collègues de Mardoché qui vont dire, mais Mardoché, là, tu t'agenouilles pas quand Haman passe. Voilà, écoute, c'est quoi qui se passe avec toi là? Comment ça se fait? Elle dit, je suis juif. Et ça voulait dire, ben moi, je ne peux pas m'agenouiller parce que ça veut dire que c'est comme un dieu. Et Haman, ce n'est pas un dieu. Alors, il y a toujours des gentils collègues comme ça qui vont dire au patron, vous n'avez pas remarqué, boss, mais cet employé-là, là, vous savez, il ne vous rend pas hommage comme il devrait. Là. Il ne s'agenouille pas. Là. Alors, Mardoché avait ses gentils collègues comme ça. Vous en avez des gentils collègues comme ça, parfois? Que si le patron n'a pas vu, là, ils vont faire être sûr que le patron a vu ça, hein? Vos moindres erreurs et vos moindres choses, ils vont guetter ça. Alors, ces gens-là vont dire à Haman, « T'as-tu remarqué, Mardoché, ce fonctionnaire, là, il ne s'agenouille pas ?» Alors, évidemment, là, Haman, la prochaine fois, il regarde. Puis là, ça le fatigue. Imaginez-vous un homme qui est le premier ministre, qui a tout ce qu'il veut, qui a tous les privilèges, le pouvoir, et il y a une chose qui le fatigue, et il ne peut pas être heureux. Cette petite chose le fatigue. Il ne sera pas content avant que Haman puisse se courber devant lui. Des petites courbettes. Mardoché, merci beaucoup de me rappeler. Il y a des gens qui, dans la vie, ont apparemment tout et on les envierait presque, et pourtant ils ne sont pas heureux parce qu'il y a une petite chose qui les fatigue, puis il me semble qu'il faut qu'ils contrôlent absolument tout. Hein? Et Haman est ce genre de personne qui ne se satisfait pas de ça. Alors il veut se venger de Mardoché, mais il dit que ce ne serait pas assez. Je vais faire payer, je vais faire payer sa famille, je vais faire payer son peuple. Ça, c'est la vengeance à son meilleur. Hein? Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est plus que ça. Hein? Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il savait que notre nature humaine, c'est de faire payer beaucoup plus cher aux autres que ce qu'ils nous ont fait. Et Haman veut détruire donc le peuple juif à partir de ce moment-là, ce qui est une nouvelle catastrophique. Mardoché va prendre le deuil, va se mettre en habit de deuil sur la place publique. Là, il va s'afficher, il va pleurer, et là, Esther est au courant, il entend dire qu'il est sur la place publique, il fait un fou de lui. Et elle commence à avoir honte. Elle est humaine. Parfois, nous avons honte quand des gens que nous connaissons, qui sont intègres, qui se tiennent debout, vont prendre position, vont s'afficher et en même temps vont identifier ou afficher notre communauté ou nous-mêmes et nous mettre dans l'embarras. Ça vous est-il arrivé d'être mis dans l'embarras par des chrétiens, mais parce qu'ils faisaient ce qu'il fallait faire, mais qu'on, il va un peu trop loin là. On n'aimerait pas ça, on a un petit peu honte. Et finalement, elle va chercher Mardoché et puis Mardoché va lui dire, demander d'intervenir. Il va lui dire, écoute, tu as un rôle important. Et il va lui dire une parole très significative. Il va lui dire, va voir le roi. Et elle va, un peu comme Moïse, vous savez, elle va parlementer. Elle va dire, écoute, ça fait déjà quelque temps que je suis marié avec le roi. Et puis la lune de miel est passée. Et le roi a beaucoup d'autres épouses aussi. Et puis, je vais te dire la chose, Mardoché. Pour aller devant le roi, il faut se présenter. Et s'il nous tend son sceptre, et quand on le prend, c'est mon bienvenu. Si nous t'en passons cep, ça veut dire que on est la tête coupée. Et je risque ma vie en allant à la porte du roi. Et dis surtout que ça fait un mois qui ne m'a pas touché, ça fait un mois qu'il ne m'a pas convoqué. Je ne suis pas dans les bonnes conditions pour aller demander une faveur. Et Mardoché dit, si tu persistes à garder le silence, c'est tout le peuple juif qui va être détruit. Et il dit, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Il ne dit pas Dieu, mais il dit que tu es devenue impératrice. Sous-entendu, Dieu t'a placé là. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que vous avez été placé là où vous êtes. Dans une situation critique. Une situation où peut-être vous dites, ben là je ne suis pas tellement en bonne position pour intervenir. Hein, par exemple, ce monsieur qui est allé négocier avec TVA. Oh, ben, je ne sais pas si je suis game d'aller faire ça, là. Hein, c'est quand même un gros montant. Puis je ne suis peut-être pas en bonne position de défendre une cause. Dans l'histoire, la preuve est faite que parce que des hommes et des femmes ont eu le courage de se tenir debout, ils ont influencé la société. Un homme comme Wilberforce, si vous avez vu le film Amazing Grace, la grâce infinie, ce parlementaire britannique qui a lutté pendant des années avec un succès et finalement qui a réussi à obtenir l'abolition de l'esclavage officiellement en Angleterre. C'est extraordinaire. Peut-être que les circonstances n'étaient pas toujours favorables au Parlement, je vous assure. Il y avait des choses compliquées, des intérêts politiques, des intérêts économiques. Mais il a quand même tenu le coup, il a persévéré pendant des années pour dire, eh oui, qui sait si Dieu ne m'a pas placé là pour une bonne raison, et pour cette raison. Vous n'êtes pas roi, vous n'êtes pas reine, vous êtes des princes et des princesses. Qui sait si Dieu ne vous a pas placé là où vous êtes maintenant, dans des situations difficiles parfois, pour influencer là où vous êtes, pour apporter plus de justice, plus d'espoir, pour faire débloquer des situations. Esther va trouver la façon, elle va inviter le roi à un grand banquet et elle va inviter le méchant à la table, Haman. Et le premier soir, elle use de stratégie, elle fait un petit peu, elle dit, dis-moi ce que tu veux. Parce qu'en général, quand on faisait un banquet comme ça, il y avait une raison. C'est comme un repas d'affaires, si vous voulez. Hein. Et le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Donc, il y avait quand même des limites, mais quand même, c'était pas mal. Et elle s'est dit, non, reviens demain, je te dirai. Et elle planifie de le faire revenir demain soir avec Haman. Et Haman rend, imaginez-vous Haman, le premier ministre, le méchant. Il rentre chez lui, puis il dit à sa femme, imagine, qui c'est qui m'a invité aujourd'hui, là, à souper, là. Tu n'en croirais pas? La reine elle-même. Je suis dans ses bonnes grâces. La reine elle-même, elle m'invite comme si j'étais, c'est extraordinaire. Il dit. Mais il y a quelque chose qui me fatigue quand même, je ne serais pas heureux avant que Mardoché, ça me fatigue. Alors ses amis disent, écoute, ça va faire là maintenant, là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une grande potence, 25 mètres de haut, 75 pieds, imaginez-vous, on voit de loin, hein, et tu vas humilier cet homme et tout son peuple, et tu vas le faire mettre à mort afin que tu sois débarrassé de ce problème. Alors il dit, waouh, ça c'est une bonne idée, super bonne idée. Donc il retourne le matin. Après le premier banquet, il retourne le matin voir le roi avec l'intention de lui demander la permission pour mettre à mort Mardoché et la potence était déjà prête. Ça, c'est vraiment les retournements incroyables. Le roi, lui, pendant cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Insomnie. On lui dit, dites-moi, lisez-moi les livres de la loi. D'habitude, les livres de loi, moi, ça m'endort, mais lui, ça avait l'air de le stimuler. Et tout d'un coup, on lui lit ça, puis on dit, oh, il y avait un homme Mardoché qui vous a sauvé d'un complot. Oh, je ne m'en souvenais pas. Peut-être que c'était entre deux bouteilles, je ne sais pas, mais je ne m'en souvenais pas. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait pour ce gars-là? Ah, il dit, on n'a rien fait. Ah, ça, c'est souvent les choses comme ça, hein, on n'a rien fait. Alors, il dit, il faut faire quelque chose. Alors, Haman, lui, il arrive pour demander la tête de Mardoché. Le roi le voit arriver, il dit « Entre, Haman, entre, bienvenue !» Et puis il lui dit « Haman, j'ai une question pour toi, là. Ton avis est important. Qu'est-ce que je devrais faire pour quelqu'un que je voudrais honorer ?» Alors Haman, il dit
Ah, oh, c'est juste pour moi, c'est sûr. Vous savez l'orgueil, comment ça peut nous aveugler? On devient bébête, on devient stupide. Après ça, on a honte, on dit « j'ai fait un fou de moi ». Parce qu'on pense que tout est centré sur nous et que l'orgueil nous fait faire des stupidités. Et Haman est tellement centré sur sa gloire, sur sa petite personne, qu'il dit « oh, c'est sûrement pour moi ». Alors, il met le paquet, hein, il dit « tu vas prendre le cheval qui t'appartient ». Tu vas prendre des habits, moi je prendrai des habits royaux, hein, et puis un diadème, puis je le ferai parcourir toute la ville en disant « Voilà l'homme que le roi veut honorer ». Alors le roi dit « Waouh, c'est une super bonne idée ». Ben, il dit « Va faire ça avec Mardoché ». Imaginez-vous la tête qu'il a fait. Ouh, blanc, livide là, tu sais. Ouh, mais politicien, il dit « Là, écoute, ça joue serré, hein ». Il va chercher Mardoché, il fait monter sur un cheval, il met tous les habits, il lui donne l'honneur alors qu'il devait le mettre, plus haut que ça, 25 mètres. Mais je vous dis que le cheval était haut, là. Et Haman devait se promener avec lui puis dire partout, « Voici l'homme que le roi veut honorer. » Ça, c'est difficile pour l'orgueil. Mardoché, là-dedans, incroyable. Vous savez qu'il aurait pu dire « Plus fort, s'il te plaît, là. » Non, un petit peu plus fort. Vous savez, quand on a l'occasion de marquer un coup, là, hein, on aimerait ça. Mais comme chrétien, on n'est pas appelé à prendre avantage, même sur nos ennemis. Christ nous dit, aimez nos ennemis. Et Mardoché, vous savez même ce qu'il fait après? Après, il descend de son cheval, c'est un petit tour de cheval. Et on aurait pu dire, il est opportuniste, là, cette fois-ci, il va avoir sa récompense, non? Il dit, déposez-moi à la porte, là. J'ai du travail maintenant. Là. Déposez-moi. Il retourne à sa routine quotidienne. C'est comme s'il ne veut pas prendre avantage de ses honneurs. Combien nous aimons avoir l'image? Combien nous aimons être honorés? Combien nous aimons être vus? Être appréciés? C'est normal aussi. Mais combien c'est une tentation pour nous? Bien, voilà un merveilleux exemple d'humilité qui nous montre que Mardoché retourne à son travail comme si de rien n'était. Ce n'est pas lui. Vous savez, la Bible dit, ne mets pas en avant, parce que ce serait humiliant pour toi qu'on te dise d'aller en arrière. Hein. Vous mets-toi en arrière, c'est mieux qu'après ça qu'on te dise d'aller à la première rangée. Eh bien, Mardoché retourne à son travail. Et puis, écoutez, je vais arrêter là pour cette histoire. Vous avez 10 chapitres, vous les lirez cet après-midi, ça prend 3 quarts d'heure. Vous verrez la belle fin de cette histoire, parce qu'il y a une belle fin. Finalement, la reine reçoit Haman à ce banquet, puis à nouveau elle dit « Qu'est-ce que tu veux me demander ?» Elle dit « Ben, il y a, tu sais, un complot qui est fait contre ton peuple. » Mais il dit « Qui c'est ?» Ce méchant dit « C'est lui. » Et Haman devient encore blême. Et là, le roi sort, parce que le roi piqué des bonnes colères, il sort dans la cour parce qu'il veut ventiler un petit peu. Et puis là, Haman s'en dit « Mon chien est mort, comme on dit. » Il se jette sur le canapé où est la reine Esther pour le supplier de sauver sa vie parce qu'il était arriviste, mais il était peureux aussi. C'est un lâche. Et quand il revient, quand le roi revient dans la pièce, qu'est-ce qu'il voit? L'autre quasiment sur le lit, sur les genoux de la reine, dit « Et en plus !» Et il ne lui adresse pas la parole. Imaginez-vous que le roi parlait à Haman comme une personne avec « tu, je, vous hein ». Mais là, il ne parle même plus à Haman. Il dit « En plus, il dit, il voudrait violer la reine. » Il ne devient même plus un interlocuteur valable. Et tout de suite, quand on entend ce vocabulaire, quelqu'un met un sac sur la tête d'Haman et tout de suite on l'emmène, il est pendu. Et le peuple juif reçoit l'autorisation, non pas, je dirais, l'édit est là. Il y avait un édit de lancer partout dans le royaume que Haman avait obtenu pour massacrer les juifs à un certain moment. Quelques mois après. Ça, c'était fini, c'était un génocide. C'était un génocide. Mais ça n'existe plus, les génocides, aujourd'hui. Ça existerait peut-être moins si l'Église était moins silencieuse. Mais ce génocide se prépare, mais le roi dit, je ne peux pas vraiment aller plus loin, mais écrivez des lettres, puis je vous donne le droit de vous défendre. Et puis, évidemment, les Juifs, à un certain moment, vont se défendre dans toutes les provinces. Et Mardoché va trouver une place aussi d'honneur comme Premier ministre. Et il nous est dit, à la fin, ça c'est extraordinaire, même quand il trouve le pouvoir, ça c'est quelque chose d'incroyable. il nous est dit que il ne va pas profiter de cette situation. Il va continuer de faire du bien à son peuple et il ne va pas saisir l'occasion du pouvoir. Vous savez, le pouvoir corrompt, d'habitude, ce qu'on dit. Il ne va pas saisir l'occasion, parce qu'il a le pouvoir, de le prendre à son avantage. Mais il va continuer de servir la communauté. Ça, c'est un bel exemple aussi. Comme chrétiens, quand nous avons une position d'importance, il est facile d'oublier d'où nous sommes sortis. Et Dieu nous appelle à ne pas profiter de notre pouvoir, parce que nous avons tous du pouvoir quelque part. Hein? De ne pas profiter du pouvoir pour nous servir, nous, pour exploiter les autres, mais au contraire, leur faire du bien. Alors que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et que la communauté de l'espoir soit une communauté qui soit incarnée dans la société québécoise, qui fasse du bien et qui honore Dieu.